Chapitre 9e. Lettre de deuil. Je revis depuis cette aventure plusieurs fois Martin Numa, mais comme il ne me disait plus rien de la bottine, ni d'Octavie, je ne me hasardais pas à le questionner sur cette affaire. J'attendis, comme toujours, qu'il voulût bien m'en parler le premier. Un matin, au moment où je me disposais à descendre de chez moi pour me mettre en course, partir à la chasse aux nouvelles, mon ami, ainsi que cela lui arrivait parfois, entra chez moi. « Vous alliez sortir ?» me dit-il. « Vous le voyez. Ça tombe à merveille, je vous emmène. »« Enchanté. »« Je vous emmène chez le chevalier Fontis. » »« Parfait. C'est la quatrième fois que le chevalier me fait venir. »« Aujourd'hui, je peux vous emmener avec moi. » »« Je lui ai d'ailleurs annoncé votre visite. » »« Une nouvelle affaire ?» ?»« Oui. Et qui commence par être très intéressante. » »« Elle promet. » »« Grandement. Je vais vous mettre au courant. » »« Vous souvenez-vous qu'à l'aventure de Vilaine, nous avons arrêté et fait conduire à la prison de Poissy le mécanicien du malheureux comte de Villacerboli. Je me souviens. Un de mes hommes, Philippe, déclarait, et sa parole ne peut être mise en doute, avoir vu le mécanicien parler à un homme qui ensuite pénétra dans le jardin de l'auberge. Parfaitement. Mon Philippe vit ensuite le mécanicien se glisser entre les roues de devant de la voiture, le vit sortir des roues de la voiture et enfin pénétrer à son tour dans le jardin de l'auberge par le chemin qu'avait pris l'homme à qui il avait parlé. Il devait probablement se rejoindre. Certainement. Le mécanicien, donc, fut arrêté. Il a été longuement et habilement cuisiné. Le résultat fut nul. Mais votre opinion intime est que le mécanicien est un des affiliés. Il a été mis comme le valet de chambre auprès du comte pour le surveiller, le tenir, le tuer. Voilà ma conviction. Et la conclusion du rôle du mécanicien? Aucune charge n'ayant pu être relevée contre lui, il a été forcément mis en liberté, mais il s'est trouvé sans place. Le comte le renvoya? Pas précisément. Mais le comte di Villacerboli, toujours très malade à Saint-Germain, n'ayant plus d'automobile après cet accident, donna à son mécanicien une indemnité et l'engagea à chercher un autre maître. Or, mon cher ami, savez-vous chez qui cet homme se présenta? Chez le chevalier Fontis. C'est en vérité de l'inconscience pure ou de l'audace au suprême degré. Mais le mécanicien en a été pour ses frais d'audace. Le chevalier Fontis ne veut avoir autour de lui personne n'ayant été au service, non pas du comte di Villacerboli, mais de la belle Focamore. Hein. On ne saurait trop l'approuver. Bref, le chevalier se tint en méfiance et il ne prit pas à son service le mécanicien de son malheureux ami. Je pressens que malgré ses précautions, le chevalier est inquiet. Inquiet, lui, pas loin du monde. Le chevalier est doué d'un courage à toute épreuve. Il est admirable de vaillance. Le chevalier Fontis est seulement préoccupé. Voici pourquoi. Il a reçu, voici quelques jours, coup sur coup, trois lettres de deuil. C'est pour cela. Mais il n'y a rien d'anormal. Le chevalier a reçu d'abord une lettre de faire part de la mort d'un homme qu'il ne se rappelle pas avoir connu. Le lendemain, il en recevait une seconde d'une autre personne qui lui était tout aussi inconnue. Erreur des gens chargés de faire l'envoi de ces lettres de deuil. C'est ce que pensa d'abord le chevalier, mais deux jours après il en recevait une troisième, dans les mêmes conditions. Ah, une troisième. Le chevalier devint alors perplexe. L'erreur d'envoi n'était plus admissible. Que fit-il? Il ne bougea pas, attendit, deux jours après, nouvelle lettre de faire part. Cette fois, le chevalier ne pouvait pas ne pas voir dans cet envoi réitéré de lettres de deuil une intention précise, une volonté marquée, évidemment. Deux jours plus tard, une nouvelle lettre lui arrivait. Cette fois, sans doute, le chevalier vint vous trouver. Il vint, en effet, me demander mon avis sur ces lettres de deuil. Que lui avez-vous répondu? Que je ne pouvais lui donner aucun avis raisonnable avant d'avoir bien étudié ce fait singulier. J'ai dit au chevalier de garder les lettres de deuil qui lui arrivent encore tous les deux jours, de les garder et de me les montrer. Bien. Il doit à présent en posséder 7 ou 8. Nous allons les voir. C'est pour cet intéressant examen que je vous demande si vous voulez bien m'accompagner aujourd'hui chez M. Fontis. Avec joie, vous le savez bien. Alors en route. Tout en descendant l'escalier, je dis en m'étonnant à Martin Numa. Comment, mon cher, nous allons ainsi chez le chevalier sans aucune précaution, sans nous cacher, sans dissimuler notre visite? Oui, comme cela, tout naturellement, en plein jour, à découvert. C'est de la dernière imprudence. Vous savez bien que vous êtes suivi, espionné. Je le sais parfaitement. Le chevalier l'ignore donc? Vous ne lui avez pas dit? Pardon, il le sait. Et c'est justement parce qu'il le sait qu'il veut que nous agissions ainsi. Il vient chez moi, et il me fait venir chez lui, au grand jour, au vu et au su de tout le monde. Il tient absolument à ce qu'il soit ainsi fait. Mais c'est donner l'éveil aux ennemis, je le sais. Mais le chevalier ne veut pas entrer dans des combinaisons de déguisement, de mystère. Je vous ai dit qu'il était brave. Il veut se dresser loyalement, debout, au grand jour, devant ceux qui marchent dans l'ombre. Jusqu'à Passy, près du Ranelagh, où le chevalier Fontis habitait dans un charmant petit hôtel entouré de jardins et de grands arbres, Martin Huma fuma des cigarettes sans plus rien dire. De temps en temps, il jetait un coup d'œil par la portière, puis se remettait à fumer tranquillement. Quand la voiture s'arrêta devant la grille de l'hôtel Fontis, Martin Huma sauta sur le trottoir. Il fut assez long pour donner au chauffeur du taxi, un taxi ordinaire, que nous avions pris place blanche, le prix de la course. Tout en cherchant sa monnaie, vérifiant le prix sur le tableau du compteur, il regardait sur le trottoir où nous nous trouvions et aussi sur celui de l'autre côté de la chaussée. Puis enfin, ayant réglé sa course, il sonna à la grille. « Ils sont à leur poste, » me dit-il en pénétrant dans le jardin. « Ne vous tournez pas, ne regardez pas. Il y en a deux dans la rue et deux dans la maison, en face, au deuxième étage. » Je sursautai en lui demandant « Comment pouvez-vous savoir qu'il y en a deux dans la maison ?»« Parce que j'ai vu les rideaux de deux croisées du deuxième étage remuer chaque fois que je suis venu ici. » Or, comme je ne fais pas, plus qu'un autre passant, des courants d'air en marchant dans la rue, il est étrange que ces rideaux, malgré les croisées fermées, se mettent à bouger quand je passe. Je me doutais, et c'est tout logique, que les ennemis avaient loué quelque chose dans les environs pour surveiller le chevalier Fontis. Je voulais savoir où se trouvait le guépier. Qu'avez-vous fait ? Le lendemain du jour où le chevalier m'avait prévenu de la réception d'une nouvelle lettre de deuil, je suis venu ici. J'ai fait avec le chevalier un tour dans le jardin. Les arbres sont dégarnis de feuilles. Nous sommes dans cette saison à la merci de sauts brusques de température. Pluie, brouillard et neige même. Je suis donc sorti dans le jardin avec le chevalier. Vous remarquez que le jardin de l'hôtel donne sur la rue par laquelle nous sommes venus. Derrière, il a vu sur le Ranelagh, dont une grille de fer seulement le sépare. Puis, de chaque côté, ce sont les jardins d'autres hôtels. Donc, c'est par la rue seulement, par les maisons d'en face qu'on peut voir ici. C'est dans une de ces maisons que les ennemis devaient se trouver. Le mouvement des rideaux ne me suffisait pas. Je voulais quelque chose de plus certain. J'eus le soin de faire naître avec le chevalier une discussion sur une question de mesure de comparaison de distance de terrain. Pour établir qui de nous deux avait raison en soutenant son opinion, le chevalier et moi nous descendîmes dans le jardin. Nous eûmes l'air de chercher une allée propice, un coin convenable, un endroit enfin où, selon un cliché connu, devait se passer quelque chose. Notre choix s'arrêta à dessein sur une allée partant plutôt de l'angle de l'hôtel opposé aux maisons de la rue, de telle sorte que nous apparissions et nous disparissions tour à tour derrière l'hôtel. Des croisées d'en face, on ne pouvait suivre que très imparfaitement notre manège. Non content de cela, je me mis à arpenter l'allée à grands pas. Enfin, je donnai une longueur à cette allée. Le chevalier affirmait qu'elle en avait une autre. Nous nous ancrons dans nos opinions, nous maintenons notre dire, si bien que pour nous mettre d'accord, nous prenons la résolution de mesurer l'allée avec une corde d'abord, puis avec un mètre en bois. Je comprends. Ce manège singulier, inexplicable, a dû profondément étonner les curieux du voisinage. Je me doutais de leur curiosité. Quand je quittai le chevalier, lui ayant enfin donné raison, je remarquai que le rideau bougeait encore. Savez-vous qui j'ai cru reconnaître à la croisée ? Le marquis, l'homme brun, de la rue d'Amsterdam, de Vilaine, de ma rue, à Passy. L'homme au cigare, l'un des gentlemen au pot de colle, et avec lui le prince Ramolino. Vivement, Martin Huma ajouta, en atténuant ma surprise, « Chut, plus un mot de tout cela, voici le chevalier. » En effet, le chevalier souleva la lourde portière du salon dans lequel on nous avait fait entrer. Il fallait avoir l'oreille de Martin Huma pour pouvoir percevoir et reconnaître des pas sur les tapis épais qui couraient par tous les corridors, s'étendaient dans le salon. Le chevalier entra donc, le visage souriant, les mains tendues vers nous. « Bonjour, cher ami, » fit-il. « Ah, monsieur Courville, vous avez voulu accompagner Martin Huma, c'est aimable à vous. » Le chevalier était trapu, bien taillé, robuste. Il avait les cheveux frisottants sur le front très haut. Intelligent et relevé en bouffette sur les tempes, il portait, cavalièrement retroussé, sa moustache blanchot et sa bouche énergique se dessinait nettement, dominant un menton carré, volontaire. Les yeux étaient grands et bleus, très clairs et très droits. On sentait en cet homme, outre le courage infaillible, la force, la droiture et la loyauté. Le chevalier nous dit au bout d'un moment de causerie « Passons dans ma bibliothèque, nous y serons plus à l'aise, plus chez nous. » Il nous montra le chemin. La bibliothèque était une pièce assez vaste, ornée de tableaux et d'objets d'art du plus haut prix. Les livres étaient tous rares et revêtus de reliures précieuses. C'était la pièce préférée du maître. Parmi les tableaux, les objets d'art, se trouvaient des armes, rehaussées d'ornements du plus artistique intérêt. Au milieu d'un panneau, en face des croisées de la baie donnant sur le jardin, une panoplie de sabres, d'épées, de poignards. À chacune de ces armes était attachée par une cordelette un petit écriteau la faisant connaître. « Vous faites aussi des armes, sans doute, monsieur Courville ?» me demanda le chevalier Fontis. « Oui, monsieur, de l'épée. » « L'épée, oui, l'épée, reine des armes, arme fidèle, arme subtile, loyale et fière, arme difficile, savante. En tant que Français au cerveau clair et précis, l'épée doit être votre arme favorite, votre arme nationale. » Alors il désigna des sièges. Lui-même s'assit dans un grand fauteuil en cuir rehaussé d'or. « J'ai reçu ce matin une nouvelle lettre, » dit le chevalier. « Ah, » fit Martin Numa, « vous l'avez gardée ?»« Comme vous me l'avez demandé. » « Bon. » « Voulez-vous me montrer, avec cette dernière, toutes les lettres que vous collectionnez ainsi ?» Le chevalier tira un des tiroirs fermés à clé de son bureau et mit devant mon ami une serviette en cuir qu'il ouvrit pour sortir de l'une de ses poches quelques enveloppes comme celles des faire-part de décès. Martin Numa les étala devant lui. Il avait tiré de son veston sa loupe, son inséparable loupe, qu'on voyait apparaître au moment dans des recherches délicates et lentement, minutieusement, il examinait les timbres de la poste, les cachets mis par les bureaux d'expédition. « Tiens, tiens, » fit-il alors, « c'est bizarre. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda le chevalier. « Où demeure à présent la belle Focamore ?»« Mais toujours dans l'hôtel du comte di Villa Charboli. »« À Passy ?»« Oui, à Passy. »« Eh bien, aucune de ces lettres ne porte le timbre d'un bureau de poste de Passy. »« Vraiment ?»« Où demeure le marquis Primo di Carmine Santucci ?»« Rue des Bellefeuilles. » Voici une lettre qui porte le timbre du bureau desservant la rue des Bellefeuilles. Martin Numa poursuivit. C'est la seule d'ailleurs, et cela ne pouvait se renouveler. Pourquoi cela ? Demanda le chevalier, anxieux. Parce que, sans aucun doute, le marquis di Carmine et Santucci, ceux qui expédient ces lettres, ont eu vent du danger qu'il y avait à mettre toujours les lettres dans la même boîte, croyez-vous ? On sait que vous m'avez parlé de ces lettres, que vous me les avez montrées. On sait aussi que je suis un homme méticuleux, qui cherche toujours la petite bête, et on s'est douté que ma loupe, qui chaque fois qu'elle sort de ma poche fait sourire mon ami Courville, on s'est douté, dis-je, que ma loupe entrerait en jeu. Si ma loupe me faisait voir toujours le timbre du bureau de la rue des Bellefeuilles ou d'un bureau voisin, rien ne serait plus facile que de chercher quel personnage mêlé peu ou prou à cette affaire habite dans ces parages. Rien ne serait même plus facile que de poster pendant quelques heures des agents chargés de pincer ceux qui jetteraient des lettres de deuil dans les boîtes. C'est évident. Donc on a voulu donner le change, nous dérouter. On en a mis dans plusieurs boîtes. Tout bonnement. En voici une timbrée à la Bourse, une rue Le Pelletier, une près de l'Étoile, une à la Grande Poste, et enfin une dernière portant le timbre de Suresnes. Martin Numa sourit. « Ces cousses de fil blanc, leur malice, » s'écria-t-il, « c'est enfantin. » Vous voyez la trace, comme si c'était écrit tout au long. La première indication nous révèle les autres. Ce n'est pas la belle Focamore qui vous a expédié les lettres. Celle-ci tout au moins comme nous l'avions pensé, en premier lieu. Ah, c'est le marquis Primo di Carmine Santucci et le prince Ramolino. Le chevalier tressaillit. Le marquis, le prince ? « Pourquoi voulez-vous que ce soit le marquis di Santucci, le prince Ramolino ? Je ne les connais que peu, en somme. Je n'ai jamais eu avec eux que des rapports courtois, mais peu fréquents. La raison, nous la découvrirons plus tard. Pour le moment, ne retenons que ceci, les lettres. Je crois pouvoir vous en donner l'assurance. Ont été mises à la poste par le marquis, par le prince, par un de leurs domestiques, par quelqu'un enfin les touchant de près. » Mais je crois que le marquis est le principal expéditeur. Voulez-vous m'en donner l'explication ? Volontiers. La première porte le timbre de la rue des Bellefeuilles. Bien. La seconde du bureau de la Bourse. Le marquis fréquente peu la Bourse. Sans doute. Mais le bureau de la Bourse se trouve au cœur de Paris. après l'heure où l'on sort des théâtres, des restaurants de nuit, des cercles, c'est là qu'on va jeter vers le matin les lettres qui seront levées pour être distribuées le matin même. En effet. Or, on tenait à ne pas laisser séjourner trop longtemps les lettres dans les boîtes, toujours par excès de précaution. C'est possible. Et puis, l'ami du marquis, le prince Ramolino, joue à la bourse. Oui, il spécule et joue beaucoup. Martin Dumas reprit. La troisième lettre est datée de la rue Le Pelletier. Or, il y a aussi, dans la rue Le Pelletier, la banque Castagnier. Le chevalier tapa du poing sur la table. « Vous avez raison, » s'écria-t-il. « Vous avez raison. » Quoi de plus simple, de plus naturel pour le marquis, que de faire expédier dans le volumineux courrier de la banque une lettre à votre adresse ? Très vrai, très vrai. Mais celle partie de Suresnes. Suresnes, mais c'est le prolongement du bois. Et quelques tours de roue de plus pour une automobile qui fait sa promenade avant le Porto. Et n'est-ce pas aussi la route de Saint-Germain ? Saint-Germain, où se trouve encore à l'hôpital le malheureux Villacciarboli, à qui Elvira Focamore rend de si affectueuses visites. Riant, Martin Huma conclut. « Voyez-vous, monsieur, dans la canaillerie, il ne faut pas vouloir être plus malin qu'il n'est nécessaire. » Il alluma une nouvelle cigarette, pendant que le chevalier examinait, tour à tour, les lettres avec anxiété, et regardait avec stupéfaction cet homme, d'esprit ingénieux, à la déduction si hardie.